Un jour, un livre, un auteur, Philippe Denis, Diego Rabal, fidèle au poste. Bonjour messieurs.
Bonjour Philippe Supercasse, bonjour Diego Rabal.
Bonjour les deux Philippe.
Vous m'avez fait plaisir cette semaine, Philippe Denis, parce que des fois vous arrivez avec des livres qui font 800 pages, 400 pages, où il me faudrait à peu près 2 ou 3 siècles pour les lire, que vous lisez souvent dans un week-end, vous m'impressionnez. Mais là vous m'avez fait voir un livre, et j'ai lu 2 nouvelles qui sont assez étonnantes, et celle des 4 personnes dans la voiture, ou bien celui qui maltraite quelqu'un. La chute est toujours très intéressante. C'est des petits récits qui font une page et demie. Alors là, moi, vous m'avez régalé, Philippe.
Alors, on avait interviewé, effectivement, Philippe Supercasse, vous vous souvenez, déjà un auteur qui faisait de la nano-nouvelle, c'est-à-dire pas plus de 180 signes. On l'avait interviewé ici, donc, sur ce plateau. Et le recueil de nouvelles, il faut bien le dire, c'est un genre littéraire insuffisamment mise en valeur en France, alors même que l'écriture ramassée d'un texte demande une réelle maîtrise du récit. Ici, maintenant, pour rattraper cet angle mort de la littérature française, nous allons parler d'un recueil de nouvelles minutes, c'est-à-dire des textes très courts que l'on peut lire en tout lieu et en toute situation, sur un quai de gare, dans une rame de métro, assis à un café, allongé à la plage ou dans la file d'attente d'une pharmacie. Bonjour Hervé U.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de présence. Vous êtes l'auteur d'un savoureux recueil de nouvelles, je me suis régalé à le lire, publié aux éditions Libri Nova. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ces nouvelles, donc l'histoire minute que vous avez publiée aux éditions Libri Nova, à effectuer cet exercice de style que l'on peut lire dans la minute ou presque?
Alors, premièrement, merci beaucoup de m'accueillir et de vouloir parler de ce genre littéraire qui est effectivement assez peu répandu de nos jours. L'idée derrière ces nouvelles, c'est simplement un exercice de style, être capable de raconter une histoire en quelques mots, 200, 300 mots maximum, donc effectivement ça fait une page, 2 pages, d'amener le lecteur à rentrer dans une histoire très très vite et arriver à une chute très très vite. C'est effectivement, contrairement à ce que vous avez dit en introduction, en 800 pages on a le temps d'installer un environnement, on a le temps d'installer une histoire, en 300 mots on n'a pas le temps. Donc il faut aller très très vite, il faut limiter le nombre de mots, il faut être chirurgical dans la façon dont on écrit. Et c'est un exercice qui est très très intéressant, et quand ça fait plaisir au lecteur, alors là on a tout gagné.
Alors, ça fait plaisir au lecteur, hein, on le précise, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas un genre, la nouvelle, qui est valorisée en France, c'est pas le cas de nos voisins. Hein. Mmh. On voit que les recueils de nouvelles marchent très bien en Allemagne, marchent très bien au Royaume-Uni. Ouais. Voilà, c'est vraiment, on aime beaucoup les recueils de nouvelles, alors je parle même pas des États-Unis. Hein. Aux États-Unis, effectivement, c'est vraiment un genre de lecture qui est très très apprécié. C'est moins le cas en France, et c'est pour ça qu'on rattrape ça aujourd'hui avec vous, avec l'histoire minute, donc courte nouvelle aux éditions Libri Nova. Dans le processus de création qui est le vôtre, RVU, ça vous semble compliqué d'écrire une nouvelle minute, d'une part, et d'autre part, comment vous vient le thème? Et on verra, je vais lire tout à l'heure de nouvelles minutes, comment vous vient le thème des nouvelles minutes que vous écrivez?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est effectivement difficile pour un auteur de devoir se limiter à un certain nombre de mots, mais c'est un véritable plaisir parce que c'est vraiment ciseler chaque phrase, arriver à donner le maximum d'informations, le maximum de contexte en quelques mots. Et c'est très dur, mais c'est un vrai plaisir. Et les idées, elles viennent de partout, en fait. Moi, j'ai publié ce recueil avec quelques dizaines de nouvelles, mais j'en ai une bonne centaine ou 200 sur le coude. C'est simplement une information, une pensée qui vient à un moment donné, une sensation. Et ça en fait pas une histoire de 500 pages, ça en fait une petite réflexion de quelques centaines de mots. Et ben on passe quelques heures, quelques jours à l'écrire, quelques jours à le finaliser. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir le faire.
Et alors moi je trouve que ce bonheur, c'est bien de le partager, parce que vous voyez, Philippe Supercasse tout à l'heure là, le disait donc dans son propos liminaire là, pour débuter cette émission. C'est vrai que quand on discute par moment avec des lecteurs ou des lectrices, ils nous disent non, nous, qu'un bouquin est trop gros, on n'a pas envie de l'acheter. Et je trouve que l'avantage de votre recueil de nouvelles, c'est qu'il réconcilie des personnes qu'on a perdu ou qu'on est en train de perdre avec la lecture, on les réconcilie effectivement avec ce récit. Je vais lire plusieurs extraits au fur et à mesure de cette interview, mais je vais lire donc une première nouvelle que vous avez écrite, c'est en noir et blanc, c'est la première que j'ai lue, et j'en profite au passage pour remercier la librairie Bleu et Or, donc à Saint-Lary-Soulan, Lucie Plessala, puisque c'est chez elle que j'ai découvert votre recueil de nouvelles. Assez étonné de le trouver là. Je l'ai acheté quand j'ai vu le thème, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Voici en noir et blanc. Il y a des scènes qui ne se conçoivent qu'en noir et blanc, comme cette vieille berline sombre qui file tranquillement sur une route nationale déserte. Le paysage ressemble à la Bretagne, on pourrait être entre Rennes et Saint-Brieuc. On ne voit pas le soleil, mais il est certainement haut dans le ciel. Il ne pleut pas encore. À bord, quatre hommes, tous d'âge mûr. Leurs costumes sombres paraissent légèrement passés de mode, passés tout court. Leur visage impassible fixe sans ciller le défilé presque régulier des peupliers oubliés là. On les croirait sortis de l'imagination de Jean-Pierre Melville, une allure de petite frappe, tout juste libérée de frêne ou de la santé. On les suit sur quelques kilomètres dans un silence tout juste perturbé par le ronronnement du moteur. On ne sait pas où ils vont, d'où ils viennent. C'est sans importance. Dans une minute, on les aura oubliés. Pour l'instant, on se demande quand même qui ils sont. L'ennui, sans doute. Et puis, quand on ne s'y attend plus, un élément nouveau brise la monotonie de la scène. Par la fenêtre, entre deux arbres, un flash, une touche de couleur. Un peu plus et on l'a raté. La voiture ralentit, s'arrête et le chauffeur tourne la tête pour faire marche arrière. Il pile au niveau d'un autostoppeur, basket au pied. Une autre époque. L'équipage a repris sa progression. Le jeune homme est coincé à l'arrière entre les deux costumes sombres, son sac sur les genoux. Ses tentatives d'entamer la conversation restent vaines. Quelques minutes plus tard, pourtant, l'homme à sa droite se tourne vers lui. « Tu as un chewing-gum ?» Tout heureux, le garçon se tortille pour en sortir un paquet de sa poche, de la poche de sa veste. Il le tend autour de lui, chacun se serre. La voiture pile de nouveau. Quand elle repart, le gamin et son sac ont retrouvé le bord de la route. Toujours impassible, les quatre hommes en costume, sombres, mâchonnent en regardant défiler les peupliers. Voilà, j'adore. Ce qui est très bien dans vos nouvelles, c'est la chute. Ça ne va pas être évident d'arriver à organiser une chute. Parce que la première donne envie de lire la seconde donne envie de lire la troisième. Et puis à la fin, je me suis dit, mince, c'est déjà fini.
Ah, vous avez raison, la chute, c'est un élément important dans une histoire aussi courte. Parce qu'effectivement, il faut que le lecteur soit rassasié. Et effectivement, il a lu pendant une minute, il faut qu'il sente qu'il est arrivé à la fin de quelque chose et qu'il ait envie de lire la suivante. Et la chute, elle peut être triste, elle peut être drôle, elle peut faire réfléchir, peu importe. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une conclusion. Et derrière, bah, c'est au lecteur de faire sa propre imagination de ce qui va derrière.
J'ai une question à vous poser. Quand je l'ai lu, vous avez fait du stop un jour, vous avez été pris par quatre mecs qui ne vous ont pas adressé la parole, qui avaient envie de chewing-gum, et puis vous êtes resté sur le bord de la route.
Non, jamais. C'est des idées qui passent comme ça, et on a envie de les écrire, parce qu'on les trouve drôles, on les trouve touchantes, voilà. Et ça donne ça.
Parce qu'elle est vraiment originale. Je vais en lire une autre, c'est en page 19. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai fait lire ce matin aussi à Philippe Subercas. Je lui ai dit, écoute, lis cette nouvelle, et regarde. Et puis je le voyais sérieux, à la fin, d'un seul coup, il a ri, il m'a dit « ah oui ». On ne s'attend pas effectivement à cette chute comme là, où on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Je vais lire la nouvelle le plus fort, c'est en page 19 donc, de votre recueil de nouvelles, RVU, l'histoire minute, donc courte nouvelle, publiée chez Libri Nova. Il se croyait le plus fort, il se croyait le maître, celui à qui tout est dû. Pour lui, j'étais là, je devais le servir, répondre au moindre de ses désirs, peu en importait le prix. Pourtant, au début, une harmonie tranquille nous unissait, presque une symbiose. J'aimais sa fragilité, son goût immodéré pour les grands espaces. À cette époque, je devais le protéger des autres, les plus grands, les plus forts que lui. Mais il était plus intelligent qu'eux. J'aurais dû me méfier. En grandissant, il est devenu plus dur, plus exigeant. Rien n'était assez bien pour lui. Je m'épuisais à tenter l'impossible pour le satisfaire. D'esclave, je suis devenu victime. portant les marques de ses maltraitances, cicatrices profondes. Il n'avait plus peur de personne, toisant les autres du haut de sa nomination sans partage. Puis il m'a pensé fragile, incapable de résister à ses mauvais traitements, de soigner mes blessures. Quand il en a pris conscience, il a tenté de me protéger de lui-même, mais trop tard. Sa nature était trop forte, il a continué à me faire mal, de plus en plus mal, jusqu'à se perdre lui-même. Depuis qu'il n'est plus là, je me reconstruis doucement. Je respire. Mes forêts s'étendent de nouveau, irriguées par des rivières aux eaux claires, résonnant des multiples cris de leurs habitants. Il faudra du temps, mais de nouvelles espèces viendront peu à peu remplacer celles qu'il m'a prises. Il me pensait fragile, moi, la vieille terre et mes 4 milliards d'années. J'en ai vu passer d'autres, des espèces dominantes. Pour moi, elles ne durent jamais plus d'un instant. La idem, RVU, une chute absolument ciselée. Elle vous est venue comment, cette idée-là? C'est le réchauffement climatique qui vous l'a inspiré?
Oui, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution, même les guerres hein, qui bouleversent complètement la planète. C'est juste une façon d'essayer de faire réfléchir. Je veux pas en faire des pages et des pages. Je veux pas détailler tout ça. Je veux juste faire une petite histoire qui, au final, on se dit, bah effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà.
Et je trouve que ça c'est très bien parce que vous auriez pu à l'inverse faire un texte voilà qui aurait été et là franchement bon on serait pas en train d'en parler ensemble parce qu'il y aurait pas eu cette capacité de montrer les choses d'une autre façon, de les montrer sous un angle mort, c'est-à-dire à un moment donné de raconter l'histoire de la nature, c'est-à-dire qu'au départ moi j'ai pensé à une femme battue.
J'ai commencé à lire. C'est un peu l'objectif.
Voilà, j'avais bien compris. Je me suis dit, bon, ok, où est-ce qu'il veut nous emmener? C'est peut-être une femme battue. Je me suis dit, bon, voilà, il veut dénoncer les féminicides. Au départ, vous voyez, quand je lisais, j'étais presque, je me disais, bon, si c'est pour parler de ça comme ça, je me disais, c'est moins original que les précédentes. Et puis quand j'ai commencé à arriver vers la fin, que vous avez commencé à parler des arbres, des forêts qui se reconstituent, je me suis dit, oulala. Ouh là là, je me suis dit, garçon, tu t'es égaré, il t'a mené par le bout du nez, comme il voulait, et il y a la chute. Et franchement, brillant. Franchement, c'est...
C'est très gentil.
Moi, c'est un régal, vraiment. Je recommande aux auditeurs et aux auditrices de présence RVU, donc l'Histoire Minute, courte nouvelle, donc chez les Prix Nouva, de commander votre livre. Alors, y compris, je le répète, pour les confrères de Philippe Subercase, hein, qui adore la lecture, au point, effectivement, je le vois rire en régie, au point, effectivement, que, ben voilà, on n'aime pas forcément lire, mais je trouve que on attend 10 minutes, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de monde à la pharmacie, on sort votre livre, ben d'un seul coup, on est plongé dans un univers, le vôtre, où on est emmené avec des mots simples, mais des mots qui racontent effectivement des histoires, des mots qui veulent dire quelque chose. Et franchement, c'est réellement brillant, quoi.
Hein. Et c'est très gentil.
Voilà. Et je rappelle, donc, l'Histoire Minute, c'est plus de 40 histoires courtes à lire, hein, c'est ce qui est marqué donc dans la quatrième de couverture, qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, parce que vous dites dans la quatrième de couverture, enfin, votre éditeur et vous-même, vous dites... Ce livre n'est pas fait pour rester dans une bibliothèque. Il est fait pour les tables de salon et les tables de nuit, les sacs à main et les sacs de voyage, les grands espaces et les petits coins. Il est fait pour traîner dans les endroits où vous le trouverez lorsque vous aurez 2 minutes à tuer. J'ai trouvé que c'est ça qui m'a fait acheter effectivement votre livre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Je me suis dit, il y a une façon de présenter les choses qui peut paraître être un peu provocatrice, et qui, en fait, effectivement, ne l'est pas du tout. Donc, chapeau. Je vais lire une autre, si vous en êtes d'accord, RVU, une autre nouvelle. C'est Espace. C'est en page 79. Et ça nous renvoie effectivement à un personnage qu'on a tous bien connu, quand on est un soixantenaire comme moi, ou un peu plus pour vous, Diego Arrabal.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu plus. Hein.
150 de plus.
150 de plus, voilà. J'ai croisé le capitaine Kirk l'autre jour, il ne m'a pas reconnu. Depuis la mort de Spock, il n'est plus le même. Il avançait tête basse sur le trottoir d'en face, il s'est engouffré dans le bistrot du coin de la rue. J'étais inquiet, je l'ai suivi. Je me suis installé au comptoir entre deux Klingons habitués du lieu. Ils ne se parlent plus depuis des années, mais ils viennent boire leur verre toujours au même moment. Je suis sûr que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Mais comme ce n'est pas dans leur caractère, ça peut durer 100 ans. James était assis tout seul au fond de la salle, dans la pénombre. Comme d'habitude, personne ne faisait attention à lui. Tant que l'alcool n'avait pas déridé ses neurones, mieux valait ne pas s'y frotter. Ceux qui ont essayé s'en souviennent encore. Alors chacun attendait le moment où le capitaine lèverait les yeux pour raconter des histoires d'endroits où personne n'était allé avant lui. Quand il était mis à la retraite de Starfleet, il a eu l'idée de rendre accessible le transport par téléportation, jusque-là réservé à l'armée. Malheureusement, bien qu'il ait embauché le meilleur spécialiste, son entreprise n'a jamais décollé. Le monde civil n'était pas prêt à confier son intégrité physique à deux vieux bonshommes, plus ou moins gâteux et surtout amateurs de whisky. J'allais m'approcher de lui quand la porte s'est ouverte, laissant entrer une vieille dame très digne. Elle s'est dirigée directement vers lui. Il a levé les yeux et son visage s'est éclairé. C'est alors que j'ai reconnu Uhura. Il n'y a qu'elle pour lui redonner vie. Je pense même qu'il n'y a jamais eu qu'elle. Voilà, très belle chute, là aussi, qui nous renvoie effectivement hein, sur Spock et le capitaine James Kirk. Hein, que...
Starfleet.
Starfleet, voilà, hein, que tout le monde a connu. Et c'est surprenant, vous voyez, dans votre recueil de nouvelles, parce que vous allez chercher des personnages auxquels on ne s'attend pas. Il y a les quatre premiers personnages au départ dans la voiture. On ne sait pas qui c'est. J'imaginais un peu genre les tontons flingueurs ou d'autres personnes.
Exactement.
Voilà, et je me disais, tiens, ça fait plutôt tonton flingueur. Je me disais, j'imagine bien Lino Ventura, Francis Blanche, j'ai oublié le Lino Ventura, Francis Blanche.
Le Pierre Blier.
Voilà, Bernard Blier et le dernier acteur. Je les imagine bien en voiture avec leur costume et comme on le voit donc, dans cette scène. Sans les citer, bon, c'est eux ou c'est pas eux, mais là, d'un seul coup, voilà, vous nous envoyez dans cet univers et puis il y a cette chute. Toujours inattendu, d'histoire minute. Et on va parler de la couverture de votre livre. Parce que j'aime beaucoup la couverture de votre livre. Elle prend des pages de votre recueil de nouvelles. Il y a une montre de Mark Kelton et il y a un stylo. Qui c'est qui a décidé de cette couverture? Parce qu'elle représente bien, je trouve, les courtes nouvelles et l'histoire minute. C'est vous, c'est votre éditeur? Vous y avez travaillé ensemble dessus?
Non, c'est ma femme et moi, pour tout dire.
Ah.
Quand on cherchait une façon de représenter ce qu'il y avait dans ce livre, on a mis des choses sur une table qui représentaient ce qu'était ce recueil. Donc, effectivement, quelques pages imprimées du recueil, une montre, un stylo, ça représentait bien l'idée qu'il y avait derrière.
Vous disiez, Hervé, à l'instant, donc avec votre épouse, c'est vous qui aviez donc composé la couverture en mettant sur une table des éléments qui représentent la page de garde. Et c'est vrai que je vous disais que la première de couverture d'un roman, c'était comme le CV et comme la quatrième de couverture donc ressemble à un entretien de recrutement. C'est ça qui m'a fait prendre effectivement ce livre en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est? Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est de regarder, comme il y a l'araignée, de savoir effectivement si on trouvait aussi l'araignée donc à l'intérieur. Et j'ai commencé à le lire dans la librairie. J'ai dit, allez, hop, on envoie. J'ai dit, ça, c'est vraiment très bien. RVU, l'histoire minute, courte nouvelle, chez LibriNova. Vous effectuez des dédicaces actuellement pour porter un peu ce recueil, parce que bon, il est sorti
plusieurs années.
Il y a plusieurs années. Vous continuez encore à le porter parce que vous avez écrit d'autres... Je suis en train de chercher...
J'ai écrit des romans, pour le coup, effectivement, voilà. un petit peu plus long que ces nouvelles-là. Non, c'est vrai que ces nouvelles, elles ont eu du succès en 2020. Je les ai un peu laissées tomber. J'ai quelques dizaines de nouvelles et dans l'idée de créer un volume 2. Donc maintenant, la question va être de choisir celles qui feront partie du volume 2 pour essayer d'essayer d'attirer les lecteurs comme pour la première fois.
Ben, quand vous allez sortir le deuxième opus, vous penserez à nous à présence.
Hein, avec plaisir.
Vous nous envoyez un exemplaire et puis on reviendra vers vous. Parce que là, franchement, c'est un vrai régal. Et surtout, je le dis souvent, on essaye à... Tant que faire se peut à présence, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les livres sont malheureusement de plus en plus chers, et qu'eu égard à la crise économique que l'on traverse, eh bien, comme disait ma fille là, qui travaille dans une librairie, une grande librairie toulousaine, la Ombre Blanche, elle me disait, on n'a pas besoin des livres pour vivre. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de montrer qu'il y a des livres qui ne sont pas chers, que l'on peut lire, qui procure énormément de plaisir, parce que ben, lire, c'est quand même vivre. Et je trouve que l'Histoire Minute que vous publiez, Courte Nouvelle, RVU, chez Librinova, c'est un parfait exemple de ce qu'on aime présenter, même si c'est sorti il y a plusieurs années, c'est pas grave. Sur un jour, un livre, un auteur, donc sur Radio Présence, à Lourdes. Vous avez un projet littéraire, là, pour les prochaines semaines ou les prochains mois en cours ?
Oui, je vais publier deux romans, disons un roman et un court roman, donc entre la nouvelle et le roman, toujours chez Librinova, je pense à la rentrée. Un roman un peu plus classique et un roman policier décalé, voilà.
Ça parlera de quoi, les thèmes ? Si c'est pas indiscret de vous demander ?
Oui, on parlait tout à l'heure des soixantenaires. Bah, le roman, c'est une personne qui se retrouve à la retraite et qui est obligée de construire sa vie, de revenir un peu sur son histoire, de se confronter à la peur du vide, mais sur un mode un peu humoristique, sarcastique. Ça c'est le roman, et le roman policier un peu décalé, je laisse la surprise.
Bon, d'accord, ok. Ben écoutez, vous reviendrez vers nous dès que vous aurez tous
avec ces... Avec plaisir, avec grand plaisir.
Tous ces éléments, l'ARVU, l'Histoire Minute, Courte Nouvelle, donc chez Librinova, vraiment, on le recommande aux auditeurs et aux auditrices, parce que c'est un excellent, mais vraiment un savoureux, je dirais plutôt, si on pourrait le terme de savoureux, un savoureux recueil de nouvelles. Et comme on ne parle pas souvent des recueils de nouvelles, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire de cette édition, on se rattrape aussi, effectivement, en montrant que la France, ce n'est pas que des romans. C'est aussi des auteurs qui sont très très bons sur les recueils de nouvelles. Voilà ce que l'on pouvait dire, Philippe Subercase, pour cette semaine. Et puis...
On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine
Mais
prochaine.
Non, on va pas se retrouver la semaine prochaine. On va se retrouver, je pense, en septembre maintenant.
Voilà, c'est les vacances.
Je vais. Mais vous êtes vraiment des
stacanovistes.
Ah ouais. c'est incroyable. Vous voulez pas prendre les vacances. D'habitude, on est toujours. On est un peu excité, c'est la cloche, c'est la fin, c'est un peu, on va respirer. Alors, je sais que vous allez quand même passer cet été à lire, et puis à revenir en septembre avec des nouveaux livres, des nouvelles chroniques. Et puis, on va essayer pour la saison prochaine, si vous êtes d'accord, messieurs, d'aller nous balader un peu. Pourquoi pas aller faire de temps en temps des émissions dans des librairies, dans des salons.
Alors, on aura le salon du livre,
bien sûr, en octobre.
Pyrénéen de Bannière du Bigorre, et vous êtes, en direct, et voilà, bien sûr, et puis vous êtes du Bigorre tous les trois.
Voilà, et puis vous êtes bien sûr intéressable sur les salons, mais également sur les dates. Vous les connaissez par cœur.
Vous avez remarqué que je me trompe jamais. C'est la semaine dernière, ça.
Oui, il y a 15 jours.
Je me suis trompé quand même. Il y a 15 jours, pardon. Je me suis quand même trompé, effectivement, deux ou trois fois. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce que disait RVU à l'instant. Là, il va faire un roman, effectivement, sur les soixantenaires. Il va falloir que je le lise parce que je vais peut-être me reconnaître dans les problèmes de mémoire.
Et pour cet été, vous savez ce que j'ai fait, monsieur Noni ? Je me suis réécouté avec grand plaisir. Une chronique qu'on avait fait sur l'Atlas des îles oubliées. Alors là, pour se mettre en vacances, il n'y a rien de mieux.
Ah oui,
ah,
exact,
oui, je me souviens. Ouais.
C'était un livre que j'avais acheté sur le musée et la bibliothèque que l'on trouve sur le lac de Vassivière, en Haute-Vienne, où j'avais été en vacances et en marchant, j'avais acheté le livre, donc j'avais, j'avais rajouté du poids dans mon sac à dos. Donc, parce que la dame m'avait dit, non, mais vous vous mettez dans la voiture. Ben, j'avais dit, non, je suis à pied. Ah bon ? Ben, j'ai dit, oui, j'ai dit, je traverse. Et j'ai dit, voilà, j'ai le principe d'être à pied, c'est qu'on réinvente la lenteur. Mais bon, c'est pas trop dans l'époque, mais quand on le fait, c'est vrai que c'est passionnant. Et j'avais trouvé ce livre qui correspondait tout à fait à ce que je faisais, à ces îles oubliées.
Voilà.
On avait fait une super émission là-dessus, ouais, me rappelle.
Voilà. Ce qui est bien avec vous, Philippe, c'est quand vous vous lancez sur un sujet, vous faites deux heures.
Intéressant.
Vous imaginez.
Un grand timide.
Moi, ce qui me fait peur, c'est le prof qui vous avait dit voilà le sujet, vous avez 4 heures. Mais vous avez sûrement répondu 4 heures, c'est tout.
C'est pas faux. Oui.
Allez, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Merci
et puis,
à vous, Philippe,
vacances. Au nom de Radio Présence, bien sûr, je vous remercie encore pour votre fidélité, puisqu'on attaquera la 13e ou la 14e.
La 14e
saison ensemble.
14e saison ensemble.
Eh oui, effectivement.
Ça nous rajeunit pas.
Heureusement qu'on voit pas les photos de la première des saisons, on se ferait peur sinon. Voilà. Au bout de la 14.
Exactement, le avant après. Allez, bonnes
vacances.
Merci.
Bonnes vacances. Merci à vous aussi. Et à la rentrée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.